Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles. Elles restaient voilées pour eux, si bien qu'ils n'en saisissaient pas le sens. Comme on dit, le Seigneur, il vient de les perdre. Ces paroles passent tout droit, ça accroche pas. C'est comme une poêle Teflon, hein? Ça colle pas. C'est comme s'ils n'avaient rien dit, en fait. Pourtant, c'est la deuxième fois en peu de temps qu'il leur annonce sa mort. Et vous avez remarqué qu'il insiste, hein? Mettez-vous bien dans la tête, hein? Mettez-vous bien en tête ce que je vous dis là. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Et c'était clair, mais les apôtres n'avaient pas saisi. Il y a quelques jours, il leur avait pourtant dit clairement, le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. On peut comprendre. Les apôtres, les disciples qui sont là, sont tellement subjugués par ce que dit et ce que fait Jésus d'extraordinaire. Ils viennent d'assister à la multiplication des pains, par exemple. Quelques-uns, Pierre, Jacques et Jean, sont allés sur le mont Tabor et ont participé, ont été témoins de sa transfiguration. Ils viennent tous de voir Jésus libérer un enfant que le démon avait rendu épileptique. Alors, ça faisait beaucoup de choses fulgurantes. Hein? Et ce n'est pas étonnant que tout le monde était dans l'admiration devant ce que faisait Jésus, remarque Saint-Luc, au début de l'Évangile qui vient d'être proclamé. Vous savez, mes chers amis, comme cela arrive trop souvent, nous nous laissons prendre au piège de ce qui nous saute aux yeux puis qui nous éblouit. On dirait que ça vient comme dresser un écran, un voile, devant ce qui est plus fondamental, devant ce qui est essentiel. Et on le sait très bien, n'est-ce pas? La beauté d'une personne ne réside pas dans son apparence, dans la richesse de ses vêtements. Certains, comme moi tout à l'heure avant la célébration, ont été témoins de la beauté de cet homme, un homme de la rue, un homme avec qui j'avais jasé un petit peu avant d'entrer dans la chapelle pour prier. Il m'avait demandé sa bénédiction. Il est entré ici, très respectueux devant la présence du Saint-Sacrement, il s'est incliné à trois reprises. Et il est venu prier devant la statue de la Vierge. Pour moi, c'est la vraie beauté d'une personne. Donc, ça ne réside pas dans les vêtements, dans les apparats extérieurs, la beauté d'une personne. Elle réside, la beauté, dans ce qu'elle est, dans ses richesses de cœur. Et on peut se tourner vers Jésus devant son corps torturé sur la croix, devant son visage défiguré par la souffrance. On se souvient que le centurion romain qui était là n'a pas pu s'empêcher de s'exprimer vraiment. Cet homme était fils de Dieu. Tout païen qu'il était, il a vu au-delà des apparences. Je pense que, d'une certaine façon, ça nous renvoie à la première lecture tirée du livre de l'Ecclésiaste. Ce livre se termine, effectivement, comme il a commencé. Il se termine par les mêmes paroles. Vanité des vanités, tout est vanité. En les écoutant, je suis sûr que plusieurs d'entre vous, comme moi, n'avaient pas pu ne pas penser à Bossuet, l'évêque de Meaux en France. Ces paroles de l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités, tout est vanité », lui ont servi d'inspiration pour une de ses œuvres, un de ses sermons les plus célèbres qu'il avait prononcé comme éloge funèbre à l'occasion du décès de la duchesse d'Orléans, Henriette d'Angleterre. Derrière le voile dressé par ce qui avait été vide, ce qui avait été futile, fragile dans la vie de cette femme de la cour, Bossuet a voulu, avec ses qualités bien sûr exceptionnelles d'orateur, faire apparaître que l'essentiel de la vie sur terre se trouvait non pas dans ce qui est éphémère, mais plutôt dans ce qui est immortel. Dans le passage de l'Ecclésiaste que nous venons d'entendre, l'auteur commence par parler de la joie d'être jeune. Ben, c'est fantastique. Plein de jeunes parmi nous ici, même des enfants que j'ai vus tout à l'heure avec leur jeune maman. La joie d'être jeune. Mais il rappelle aussitôt, puis c'est un petit peu étonnant, comme avec une certaine prudence, que la vie terrestre, bien, elle est courte. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse. Puis il enchaîne. Au jour où se courbent les hommes vigoureux, où les femmes, l'une après l'autre, cessent de moudre. On a compris ce qu'il ajoute après. Lorsque l'homme s'en va vers sa maison d'éternité et que les pleureurs sont déjà au coin de la rue. La vie est éphémère. Je pense que c'est un rappel, il faut l'avouer, un peu brusque de notre destinée sur la terre. Dieu merci, il y a d'autres passages dans la parole de Dieu où l'âge plus avancé, l'âge d'or, est vraiment présenté davantage comme un âge d'or que comme la fin de tout. Ce qu'il nous rappelle, au fond, c'est que nous sommes sur terre des pèlerins, des gens de passage en route, en marche vers l'au-delà. Et Dieu merci, c'est là notre espérance, bien nous sommes destinés à un bonheur éternel auprès de Dieu. Cet homme de la rue, auquel j'ai fait mention tout à l'heure, nous qui sommes là dans l'assemblée, les moniales et les moines qui sont ici, les prêtres, Monseigneur le nonce, moi-même, nous sommes là par la foi qui nous anime, nous sommes là comme témoins. Ce n'est pas toujours présent dans notre quotidien, mais nous sommes là par notre foi témoins que nous sommes sous le regard de Dieu en marche vers quelque chose de meilleur, un bonheur éternel auprès de Dieu. Alors, mes chers amis, nous sommes rassemblés autour des moniales et des moines des fraternités monastiques de Jérusalem en cette fin de semaine. Ils sont des nôtres depuis 10 ans déjà. Ça passe vite, 10 ans, n'est-ce pas? Et on peut dire, j'ai pesé mes mots quand j'écrivais ça dans ma réflexion, des nôtres. Ce ne sont plus des étrangères, des étrangers. Ils sont des nôtres. Cet été, j'ai même pu voir qu'elles aimaient regarder les baleines. Alors, il faut être des nôtres pour avoir le goût d'aller voir les baleines à Tadoussac. Ça me fait faire le lien avec l'année de la vie consacrée, qui va débuter bientôt, vous le savez, fin novembre, selon le désir du bon pape François. Bien, cette année de la vie consacrée nous permettra de rendre grâce pour le don de Dieu à l'Église et au monde que représentent les personnes de vie consacrée. Ces hommes, ces femmes aux 1000 visages sont regroupés dans diverses familles religieuses. Ces hommes, ces femmes sont au milieu de nous comme des sœurs, comme des frères en humanité. Ils marchent, ils sont compagnes, compagnons de route avec nous, éclairés par cette foi dans le Christ qui nous entraîne vers un bonheur par sa résurrection qui ne cessera jamais. Ces hommes, ces femmes marchent avec nous. Ils donnent leur vie au Seigneur pour nous, pour l'Église, pour le monde. Leur prière et leur engagement sont une contribution essentielle dans la construction d'un monde meilleur. Et c'est pour ça qu'on est si heureux, heureuses, nous qui sommes là autour des moines et moniales des fraternités monastiques de Jérusalem, de les accompagner en cette année anniversaire. On est fiers, on est reconnaissantes, reconnaissants qu'ils soient au milieu de nous, des signes que la vie, elle est porteuse d'un avenir extraordinaire. Il y a 10 ans, le diocèse de Montréal, à la demande du cardinal Jean-Claude Turcotte, que nous accompagnons bien sûr de notre prière en ces jours plus difficiles pour lui au niveau de sa santé, bien, le diocèse accueillait, à la demande du cardinal, les fraternités monastiques de Jérusalem. Je sais, je n'insiste pas là-dessus, vous avez pris plaisir, j'aurais tellement d'anecdotes à rencontrer personnellement, mais vous avez pris plaisir hier soir à vous souvenir des préparatifs de cette première fondation en terre d'Amérique autour d'un groupe merveilleux de laïcs et grâce à la contribution exceptionnelle, plus que généreuse, des Pères du Saint-Sacrement. Et permettez-moi quand même de référer à certaines paroles de notre regretté frère Pierre-Marie, des paroles qui me reviennent à l'esprit, qui me rappelaient à chaque fois qu'il faisait la traversée, qu'il venait chez nous, que je rencontrais. C'était comme une marotte chez lui. Il prenait plaisir à me rappeler comment, au temps du discernement, de la décision, avant de dire « oui, on y va à Montréal », Sœur Marie va me suivre là-dessus, je pense. Il disait, si Dieu le veut, si Dieu le veut, nous nous joindrons à vous pour vous aider humblement, pas en prenant votre place, mais en venant vous accompagner, en étant humblement avec vous pour vous aider à brasser la cendre encore chaude de la foi, afin que l'Esprit-Saint rallume le feu d'Évangile en terre québécoise. Il revenait souvent là-dessus, avec une belle humilité, mais en même temps, porteur d'une confiance en l'action de l'Esprit, capable de faire toute chose nouvelle. Puis, dans son souci de répondre à l'appel de Dieu exprimé par la demande du cardinal Turcotte, il me répétait aussi souvent les paroles du psalmiste. Vous pourriez les citer avec moi. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. » Tout était déposé dans le cœur de Dieu et tout était soumis, je dirais, à cette volonté de Dieu que s'établissent chez nous les fraternités. Il voulait y être attentif et il savait que ce n'était pas à bras humains que la construction s'élèverait, mais que ce serait par la force, par la volonté, par la grâce de Dieu. Du haut du ciel, je pense qu'il doit se réjouir de constater que sa décision et celle de Sœur Marie et de leur conseil d'établir leurs frères et leurs sœurs à Montréal était la bonne décision. Je suis personnellement fier de pouvoir affirmer qu'avec la venue des moines et des moniales de Jérusalem, c'est un vent de fraîcheur, celui de l'Esprit-Saint comme je le disais tout à l'heure, capable de faire des choses nouvelles, hein, qui a soufflé et qui continue de souffler sur l'Église de Montréal, sur l'Église qui est au Québec et qui est au Canada. En pensant à vous, particulièrement, chères sœurs, chers frères de Jérusalem, en m'émerveillant avec les gens que vous côtoyez sur le plateau Mont-Royal, à Montréal et partout ailleurs au Québec, je réalise comment elle est vraie, cette réflexion, et je vais terminer là-dessus, que l'on retrouve dans la lettre de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique en vue de l'année de la vie consacrée. Et je cite, « Lorsque les consacrés donnent raison de la joie qui les habite, ils deviennent un splendide témoignage, une annonce efficace, une compagnie et une proximité pour les femmes et les hommes qui cherchent l'Église comme leur maison paternelle. » On croirait entendre le pape François qui se réjouit, chers amis, de votre présence. Partout où il y a les consacrés, il y a toujours de la joie. Et notre monde a besoin de joie. Vous la leur apportez. Merci au Seigneur. Alléluia.